Investir durablement grâce à l'épargne en entreprise, un webinaire proposé par Amundi dans le cadre de la semaine de l'épargne salariale avec Xavier Collot, Marie Brière, Corinne Labourex et Fabrice De Souza. Une table ronde interactive présentée par Fabrice Coustet.
Bonjour à tous, bienvenue dans le cadre de cette semaine de l'épargne salariale Amundi Épargne Salariale et Retraite a proposé à l'ensemble de ses clients, entreprises et salariés, ce webinaire interactif, puisque pendant 45 minutes, eh bien, on va découvrir ce thème ensemble et ensuite on prendra l'ensemble de vos questions. Alors, vous le savez, les Français veulent de plus en plus investir dans des placements qui font du sens. Alors, comment faire exactement? Quelles sont leurs nouvelles attentes des épargnants? Est-ce qu'on peut concilier performance et investissement solidaire et responsable? Comment aussi s'y retrouver dans la jungle des labels? C'est pas toujours évident. On va se poser la question sur aussi la période très particulière qu'on connaît en ce moment avec cette crise sanitaire. Est-ce qu'elle a bouleversé les habitudes d'épargnants? Est-ce qu'il y a une prise de conscience? Et puis pour les gestionnaires aussi, comment on s'adapte à cette nouvelle donne, comment on prend en compte l'impact social, comment on peut peser sur la vie des entreprises aussi. Bref, quels sont les nouveaux enjeux de la RSE? Eh bien, ce sont ces questions qu'on va aborder avec nos quatre invités spécialistes. On a le plaisir d'accueillir sur le plateau Xavier Collot. Bonjour Xavier.
Bonjour Fabrice.
Vous êtes directeur de l'épargne salariale et retraite, donc Amundi. Corinne Labourex également est avec nous. Bonjour Corinne.
Bonjour
Fabrice.
Vous
êtes responsable, vous, du marketing chez Amundi Épargne Salariale et Retraite. Fabrice De Souza, bonjour. Vous êtes le spécialiste ISR et solidaire, donc le responsable de la gestion.
Bonjour Fabrice.
Et enfin Marie Brière, responsable de la recherche investisseur.
Bonjour.
Toujours donc chez Amundi Épargne Salariale et Retraite. Xavier, je commence par vous. Du 22 au 26 mars, on a cette semaine de l'épargne salariale. C'est un temps fort pour tous les salariés qui aujourd'hui ont une partie de leur économie dans ces mécanismes d'épargne salariale. Est-ce que vous pouvez nous donner déjà quelques grands chiffres? Qu'est-ce que ça représente?
Merci pour cette question. Effectivement, la semaine de l'épargne salariale est une semaine importante puisqu'elle permet de promouvoir les dispositifs dans les entreprises. Le marché de l'épargne salariale en France, c'est 147 milliards sur la base des chiffres au 31-12-2020. Et ça couvre aujourd'hui 11 millions de salariés porteurs de parts, ce qui est conséquent.
11 millions.
Marché qui est en croissance pour 2020 de l'ordre de 2%, forcément chahuté par ce qui s'est passé. On n'a pas les chiffres 2021, mais la tendance sera peut-être probablement différente. Et la semaine de l'épargne salariale, c'est la cinquième du nom, portée par l'AMF, l'AFG, la Direction générale du Trésor, la Direction générale du Travail, a pour objectif de promouvoir l'ensemble des dispositifs dans les entreprises, de donner un volet de sensibilisation et de pédagogie pour les épargnants, puisque bien souvent, les épargnants ne sont pas toujours acteurs de leur épargne, de l'épargne qu'ils perçoivent dans ces dispositifs. Et l'idée de cette semaine-là, c'est cette sensibilisation, donc pédagogie, et donc forte mobilisation des acteurs. Amundi, très mobilisé sur le sujet, mais l'ensemble, bien entendu, des acteurs de la place sont mobilisés à l'occasion de cette semaine.
Dans l'introduction, je disais, Xavier Collot, qu'on a l'impression qu'il y a une vague qui est en train d'arriver. C'est l'ensemble de ces placements qui, aujourd'hui, doivent faire du sens. Les épargnants, et on va le voir dans quelques instants à travers des sondages que vous avez réalisés, voilà, on se dit qu'une page est en train de se tourner. On est OK pour investir, mais on veut encore plus investir si c'est mieux investir, c'est-à-dire pour des placements qui font du sens et même, j'irai un peu plus loin, qui font du bien à la planète. Est-ce que ce sont des comportements que vous avez, vous aussi, observés au sein d'Amundi Épargne Salariale et Retraite?
Alors, forcément, ce sont des comportements qui existent depuis de longues dates. Je voudrais refaire un petit focus sur le passé. C'est un point important et c'est aussi pour leur témoigner toute notre amitié. Le CIES, Comité intersyndical de l'épargne salariale, a développé un label en 2002. Nous sommes en 2021, donc quelques années plus tard, effectivement, les critères ESG sont prépondérants dans la politique d'investissement de la société de gestion, mais également dans les attentes des salariés. Un chiffre, 27 milliards d'euros investis dans le cadre des dispositifs d'épargne salariale aujourd'hui sont investis selon des critères ISR. Ce qui est significatif.
Investissement socialement responsable.
C'est 18% de croissance par an. Et probablement qu'on va aller sur une accélération dans les années futures. Donc la tendance est forte. Et probablement, on ira davantage vers une transformation de l'ensemble de l'épargne des salariés dans ces dispositifs-là vers des critères ESG sur la base des investissements, de l'investissement responsable, bien entendu.
Corinne Lambourec, justement, je parlais de sondages que vous faites vis-à-vis de l'ensemble de vos clients. Et puis vous voyez les placements, comment ils sont investis. Est-ce que vous avez des données, justement, chiffrées sur ces transformations qu'on connaît actuellement ?
Alors effectivement, et un peu en avant-première, on vient de clôturer en fait une enquête. C'était ce matin, d'un point de vue de recueillement effectivement des réponses. Et on peut donner effectivement quelques grandes tendances. Donc c'est une enquête qu'on partage en partenariat avec CSI Saint-Honoré et qui porte sur les usages globaux de l'épargne salariale et d'épargne retraite et dont on aura le plaisir de dévoiler les résultats d'ici une quinzaine de jours. Et donc, en avance de phase, on a posé donc, quelques questions sur...
On vous dit scoop, ESG. Là. Hein. Les gens qui sont connectés voilà. Veulent déjà des infos.
Et donc, on va donner quelques scoops quand même. Et donc, quand on pose la question de savoir si les épargnants, lorsqu'ils investissent et qu'ils choisissent des placements, font attention aux critères d'investissement responsable, ils répondent oui à 52%. C'est-à-dire que c'est un élément central de la décision pour plus de la moitié d'entre eux. Et ce qui est intéressant, c'est que plus ils sont jeunes, plus en fait ces éléments sont présents dans leur choix de décision. Donc ça veut dire en plus qu'il y a une vraie dynamique au sein des épargnants et que les jeunes générations sont d'autant plus sensibles en fait à cette dimension-là. D'ailleurs, quand on les interroge plus avant sur les thématiques, on s'aperçoit qu'ils ne se concentrent pas, mais on aura l'occasion d'y revenir, sur certaines thématiques, ils ont une vision assez large. Donc ce type de sondage, en fait, nous conforte dans l'idée qu'une épargne qui a du sens, c'est quelque chose qui est très attendu, qui est très demandé par les épargnants, et ça nous conforte dans l'observation qu'on a depuis plusieurs années de leur comportement. Car comme le disait Xavier, chaque année, nous voyons que les fonds qui sont privilégiés, en termes de ce qu'on appelle de collecte, eh bien, ce sont essentiellement des fonds d'abord solidaires et d'abord ISR. Donc cette tendance, elle est marquée, et ça fait plusieurs années qu'on la constate, et c'est vraiment très intéressant. Et encore plus en 2020, l'année qui vient de s'écouler.
Voilà, ça veut dire que peut-être on a une prise de conscience encore plus forte avec...
Alors, c'est possible. Quand on interroge ces mêmes épargnants, effectivement, sur leur vision de la crise, on a le sentiment que ceux qui aimaient investir de façon assez prononcée l'ont fait encore plus, donc ont peut-être pris plus de risques, mais plus aussi d'épargne responsable dans leur portefeuille. Donc, sans dire qu'il y a un lien de causalité, on peut penser qu'il y a une relation sur la prise de conscience globale de l'état du monde et la volonté d'investir de façon citoyenne, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence entre être citoyen et être épargnant.
Très bien. Alors, il y a une question qui se pose et je vais tout de suite l'aborder. C'est vrai que pendant longtemps, c'est pas qu'avant on voulait pas investir dans ces placements-là, ESG, ISR, donc c'est des placements qui font du sens, mais il y avait une opposition, Fabrice de Souza, entre, voilà, ce type d'investissement et puis la question de la performance. C'est-à-dire, est-ce que c'est performant ou est-ce qu'il fallait finalement rogner une partie de sa performance parce qu'on faisait du bien pour la planète ? Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui ?
Alors, effectivement, c'est une très bonne question et elle revient souvent. Amundi a mené différentes études empiriques justement sur le sujet. Et ce qu'on constate, c'est qu'avant 2014, l'intégration de critères ESG, donc environnemental, social et de gouvernance, n'apportait pas forcément de valeur dans la construction de portefeuille. Puis, dit autrement, ça ne détruisait pas non plus de la valeur. Et dit encore autrement, c'était un peu vu comme une option gratuite pour les investisseurs qui avaient des convictions en la matière. Et l'année 2014 a été un peu une année de transition dans ce monde-là. Et depuis cette année-là, on se rend compte que l'intégration de critères ESG, en sélectionnant notamment les entreprises les plus vertueuses dans ces pratiques extra-financières, crée de la valeur. Alors, il y a plusieurs explications possibles. C'est un, effectivement, les investisseurs regardent de plus en plus et demandent de plus en plus de fonds qui intègrent ces critères extra-financiers. De l'autre côté, les sociétés de gestion, les établissements bancaires offrent de plus en plus de produits qui sont typés sur ces thématiques. Par-dessus, on rajoute un cadre réglementaire, des labels que vous aviez évoqués tout à l'heure. Et tout ça fait en sorte que les flux financiers, les investissements convergent vers ce type d'entreprise qui pratique les meilleures pratiques extra-financières par rapport à d'autres moins vertueuses.
Donc on n'a plus d'opposition finalement entre placements basés sur des critères extra-financiers, finalement, performance.
Alors, effectivement, comme on dit souvent, les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Mais effectivement, aujourd'hui, il y a une tendance de fond qui est là. Et ça ne va faire que continuer. Hein. Donc, si on se réfère, par exemple, à tout le cadre réglementaire avec les nouvelles normes européennes, le Green Deal européen qui va également orienter une grande partie des fonds qui vont être mis à disposition vers des investissements liés à la transition énergétique et climatique. Donc, on pense que ça devrait, ce flux-là devrait, ne devrait pas se tarir et continuer.
Ça devrait perdurer. Ouais. Eh ben, c'est très bien. Je salue les 130 personnes qui sont connectées et qui nous suivent. Un grand merci. N'oubliez pas que cette conférence est interactive. Ça veut dire que vous pouvez d'ores et déjà poser vos questions. On les prendra après la fin de cette table ronde. On se tourne maintenant vers Marie Brière. Vous avez également des études alors plus académiques sur les comportements des épargnants, justement, des salariés qui investissent. Là aussi, c'est très intéressant.
Oui, merci beaucoup, Fabrice. Effectivement, au-delà de l'enjeu de la performance, hein, comme l'a évoqué Fabrice, et c'est extrêmement important, il y a la question des préférences des épargnants, donc de mieux comprendre en fait ce qu'ils souhaitent en matière d'investissement et de l'impact que ça peut avoir sur leur allocation globale. Et notamment, il y a un gros enjeu aujourd'hui qui est la faible participation des particuliers, enfin des épargnants en général, au marché actions. Donc ça, c'est un enjeu...
Alors on explique, parce qu'il y a peut-être des gens qui sont là, qui se reconnaissent, ou en tout cas des NRH, qui voient que c'est vrai. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit finalement cette épargne salariale comme un espèce de bonus. On ne va pas y toucher, on va le capitaliser, ça pelote dans les années, mais il n'est pas vraiment investi, en fait. Il est souvent soit en monétaire, soit... peut-être sur les actions, mais les actions de sa société.
Tout à fait. Et ça dépasse... Donc c'est tout à fait vrai dans le cadre de l'épargne salariale, et ça dépasse même le cadre de l'épargne salariale, parce que quand on regarde plus globalement, par exemple en France, les portefeuilles des Français, comment l'épargne financière est investie, 6% en actions, c'est sur la moyenne européenne, c'était très proche des chiffres allemands, donc c'est une faible participation. Et c'est un enjeu, je dirais, public, parce que c'est un enjeu en matière d'adéquation des retraites, dans un environnement où on voit la baisse des taux de remplacement, par exemple, des systèmes de retraite par répartition. C'est un enjeu aussi de développement des marchés de capitaux en Europe. La Commission européenne, l'ESMA sont engagés sur ce sujet-là en disant, voilà, si on veut des marchés de capitaux qui fonctionnent bien en Europe, qui se développent, il faut que les particuliers placent et soient actifs sur le marché actions. Et puis, dans un environnement post-Covid, c'est un enjeu de relance aussi. Hein, et on entend les politiques aussi insister sur l'idée que les particuliers doivent aussi participer à cet investissement dans la relance. Donc, les particuliers placent peu, donc ça c'est un élément de contexte assez général hein, qui est vrai très en Europe, partout en Europe. La question c'est pourquoi et est-ce que les placements socialement responsables peuvent faire changer les choses? Donc là les académiques se sont beaucoup intéressés à cette question-là, c'est même une énigme hein, parce qu'il y a énormément de travaux qui cherchent à essayer de comprendre pourquoi les particuliers placent si peu. Donc il y a la raison naturelle de l'aversion au risque, les marchés actions sont peut-être trop risqués pour une partie de la population. Il y a des facteurs qui sont liés à l'attention et à l'éducation financière. On se rend compte que les gens qui sont moins attentifs à leur épargne, ceux qui sont moins éduqués financièrement, typiquement, placent moins sur le marché actions. Et puis, plus récemment, ont été proposés de nouveaux facteurs, qui sont des facteurs comportementaux, et notamment la confiance que les particuliers pouvaient avoir dans leur environnement, dans l'économie en général et dans les marchés boursiers. Et la question, c'est que cette confiance, en fait, elle est influencée par de multiples facteurs. Donc c'est lié à la confiance interpersonnelle. Ça peut être lié à la performance passée qu'on a expérimentée. Hein. Si vous avez expérimenté une mauvaise performance boursière, si vous avez fait cette mauvaise expérience sur les marchés, vous êtes moins enclin à placer sur les marchés. Mais ça peut être aussi influencé par ce qu'on appelle, enfin, ce que les économistes appellent les préférences sociales. C'est-à-dire les valeurs personnelles, culturelles, qui, on s'est rendu compte, influencent énormément les comportements de consommation. Ça influence aussi les comportements, les préférences politiques, naturellement.
Pour traduire, être très très clair, ça veut dire que, par exemple, si je me fais une idée du grand capital qui est pas très bien, qui devrait pas exploiter, etc., je vais pas investir en actions. Ça va être un truc qui est hors de ma portée. Oui. Alors que si je baigne dedans, ou j'ai vu peut-être des parents ou des grands-parents, peu importe, un environnement plus entrepreneurial, qui a l'habitude du monde de l'entreprise, entreprise, finalement, je vais être plus incité à le faire.
Tout à fait. Donc ça a été démontré dans d'autres pays que la France. Ça a été démontré en Finlande, aux États-Unis. Donc ces préférences, comme vous l'indiquez, ont un énorme impact, d'une part sur la participation au marché action, mais également sur la manière dont on place sur le marché action et sur les préférences socialement responsables. Il y a des travaux aux États-Unis assez amusants, par exemple, qui montrent que les gérants de portefeuille, donc ça va parler à Fabrice, qui votent démocrate, sont plus enclins, par exemple, à placer de manière socialement responsable que les républicains. Alors, où ça intervient dans le cadre de l'épargne salariale? En fait, on a voulu tester cette hypothèse-là. On a une richesse extraordinaire, je dirais, des données en épargne salariale, parce qu'on peut analyser très finement les comportements de placement. Et on s'est intéressé à l'impact que pouvait avoir l'introduction de fonds responsables dans l'offre qui était proposée aux salariés, comment ça pouvait modifier leur allocation et notamment est-ce que ça modifiait la capacité des particuliers à aller placer sur le marché actions.
Entendu que le sous-jacent, c'est les actions.
Oui, alors, c'est-à-dire que les salariés ont un choix assez large de fonds, actions diversifiées, obligataires, etc.
Mais là, ça serait estampillé ISR ou placement
Exactement. C'est-à-dire qu'on a regardé l'impact de l'introduction d'un fonds actions solidaires. Parce que, Xavier l'a dit, on y reviendra peut-être, mais les placements solidaires sont extrêmement populaires au sein de l'épargne salariale, très très bien connus des Français d'une manière générale. Et donc on a regardé l'impact que pouvait avoir l'introduction d'un fonds action solidaire dans l'offre de fonds. Est-ce que ça modifiait les choix de placement des salariés? Et ce qu'on a trouvé, un résultat assez étonnant, c'est qu'ils augmentent leur participation au marché actions lorsqu'un nouveau fonds action solidaire est proposé. Alors pour vous donner un chiffre, en fait, ils l'augmentent d'environ 7%. 7% en valeur absolue, sachant que le placement moyen en fonds actions diversifiés, hors actionnariat salarié, qui effectivement est très populaire, mais en fonds actions diversifiés est de 12%. Donc c'est une hausse de plus de 50% en valeur relative.
Ouais.
Donc c'est vraiment substantiel. Et ça signale un appétit assez fort, en fait, donc des salariés pour les placements responsables et en particulier les placements solidaires.
Ça veut dire forcément qu'il faut en proposer plus. C'est intéressant ce que dit Marie. On voit bien que c'est un enjeu énorme et les chiffres sont colossaux, mais qui se heurte finalement à l'aversion au risque ou bien à finalement un manque d'éducation financière. Ça, on en parle beaucoup, évidemment. Xavier Collot, quand on voit les chiffres, ça veut dire que quand même, si c'était débloqué même en quelques pourcents, ça fait pour l'entreprise ou pour les entreprises qui sont sous-jacentes des montants astronomiques.
Tout à fait. Ça peut représenter des sommes colossales. Moi, je rappelle qu'effectivement, l'épargne solidaire, c'est plus de 11 milliards d'euros natif au dispositif d'épargne salariale. Donc, c'est pas si vieux que ça. Ça existait depuis les années 2006. Donc, on peut imaginer, et aujourd'hui, il y a un phénomène d'accélération tel qu'on l'observe, parce que les encours d'épargne solidaire d'année en année croissent globalement de 25%. Ce qui montre une très belle dynamique. Donc, on va aller vers des sommes importantes. Dans ces sommes-là, il y a 10% maximum qui sont investis dans l'économie sociale et solidaire, puisqu'il y a toujours cette part d'actifs dits risqués qui va être fléchée vers le financement des initiatives sur nos territoires. C'est aussi important. C'est une épargne qui reste en France, qui investit localement et qui va permettre de développer de l'emploi localement, de l'habitat et un certain nombre d'initiatives qui sont très appétants aujourd'hui pour les investisseurs. Okay. Donc, c'est vrai que on voit bien il y a une bonne dynamique. Pour autant, 100% de l'épargne n'est ni ISR ni solidaire, bien entendu. Il y a de la diversification. Mais on peut imaginer une tendance de fond sur du fléchage vers des actifs un peu plus risqués, peut-être au lendemain du plan pandémique, pour permettre une relance. Et que ce soit l'ISR ou le solidaire peuvent largement contribuer à cette relance en fléchant une partie de l'épargne vers ces investissements actions.
Très bien. Comment on fait justement, Corinne Laborex, vous qui êtes aux commandes justement du marketing, pour encourager les épargnants, les Français à se diriger, surtout qu'on voit que quand ils sont au courant, finalement, et ça, on le voit aussi dans les réseaux de conseillers en gestion de patrimoine, ou même chez nos amis les banquiers, dès qu'on en parle, finalement, les Français se disent « mais oui, moi, ça m'intéresse ».
Alors, vous avez raison, l'important, c'est...
Parlez bien dans le micro.
Pardon, c'est vrai, vous avez raison aussi, il faut que je parle bien dans le micro. Donc, vous avez raison, en sens que plus on en parle, plus le sujet devient facile en termes de compréhension, et devient plus habituel. Donc l'important, déjà, c'est d'en parler régulièrement. Et ce qu'on essaye, nous, au niveau d'Amundi, c'est justement d'avoir des prises de parole régulière et répétée sur ces sujets pour bien expliquer pourquoi l'investissement solidaire ou l'investissement responsable a du sens, qu'est-ce que ça apporte aux épargnants. Et les réglementations d'ailleurs évoluant, ça permet également très régulièrement de pouvoir expliquer quels sont leurs impacts et comment elles apportent de façon structurelle plus de transparence et plus de compréhension sur ces thématiques-là. Il y a une autre façon aussi très simple de pouvoir en parler régulièrement, c'est de proposer davantage en fait de gestion ou de produits d'investissement qui soient les supports de ce type de thématique. Alors, on a trois façons de le faire. La première, c'est dans nos fonds actuels, tout simplement, qui existent pour certains depuis de nombreuses années et que nous proposons donc aux salariés, aux épargnants, c'est d'introduire davantage en fait de dimensions d'investissement responsable à travers la prise en compte renforcée de critères ESG. Mais ça, peut-être que Fabrice en parlera davantage mieux que moi. Donc ça, c'est une première chose, mais c'est la réalité depuis le début de cette année pour la plupart, effectivement, de nos fonds qui sont proposés en gestion. Alors ça, c'est la première, je dirais, c'est le premier axe. Le deuxième, c'est d'enrichir de façon continue, effectivement, les types de gestion que nous proposons. Et cette année 2021, nous allons faire un effort particulier en introduisant, d'ici la fin de l'année, 5 ou 6 nouveaux fonds qui répondent à des critères ESG et d'investissement responsable. Alors, ce seront des fonds autour de la thématique de la relance, autour de l'écologie. Ce seront également des fonds qui, par exemple, mettront davantage en valeur les entreprises qui font un effort particulier en termes de dynamique ESG, environnementale, sociale et de gouvernance. Donc on va se retrouver avec un panel aujourd'hui de 6 ou 7 nouveaux fonds qui vont permettre de répondre vraiment à des questions que se posent les épargnants. On parlait de relance, typiquement, c'est très directement lié à des critères ESG quand on parle de belle relance. On parlait, en fait, thématiques territoriales et emploi, ce sont des thématiques qui sont présentes dans ces gestions. Et pour aller plus loin, lorsque des thématiques particulières sont sensibles et sont portées par des entreprises, eh bien, nous pouvons proposer, et nous l'avons fait récemment, des gestions davantage dédiées à des dispositifs d'entreprise qui vont porter l'accent, porter l'attention sur des thématiques fortes qui sont très représentatives de la culture d'entreprise. D'accord. Je pense particulièrement, par exemple, à des sujets autour de la décarbonation et de l'investissement bas carbone qui font l'objet aujourd'hui de gestion dédiée dans nos dispositifs.
Alors justement, j'aimerais qu'on s'arrête un instant parce que c'est vrai que là, depuis le début, on parle ISR, ESG, il y a beaucoup d'acronymes et on comprend aussi que ce n'est pas évident pour le salarié qui regarde un peu tout ça, qui n'est pas forcément au courant de tous ces termes. Je voudrais parler justement du concret pour qu'aussi on ne vous accuse pas de greenwashing. C'est vrai qu'on pourrait se dire, bah, tiens, c'est la tendance du moment, ils sont en train de sortir tout un tas de fonds. Concrètement, Fabrice de Souza, qu'est-ce que vous faites? C'est-à-dire, comment ça se traduit? Est-ce que c'est une logique d'exclusion où on va finalement laisser de côté les entreprises polluantes? Allez, on va les citer le charbon, le pétrole, les armes, etc., etc. Ou est-ce qu'on est déjà passé à quelque chose de plus proactif et où vous allez vraiment rentrer, parce que ça constitue quand même des milliards d'investissements, dans les conseils d'administration et finalement faire pression, entre guillemets, sur les conseils pour qu'on améliore les pratiques?
Alors, effectivement, historiquement, la première génération de fonds, si on peut les appeler comme ça, qui intégraient des critères extra-financiers, était sur une logique d'exclusion, notamment tout ce qui est exclusion normative. On va exclure les entreprises, les États qui ne respectent pas les grandes conventions internationales sur la prolifération des armes atomiques, bombes à sous-munitions, etc., etc. Ensuite, tout ça a été complété par des exclusions plus sectorielles. Vous mentionnez le charbon, mais ça y est également le tabac. Et tout ça, maintenant, est agrémenté avec plus d'une notion qualitative, avec une analyse en profondeur des entreprises. Donc on analysait déjà les entreprises d'un point de vue financier, au travers de ratios traditionnels. Maintenant, on va analyser également l'aspect extra-financier de l'entreprise pour avoir une vision 360 degrés de l'entreprise et mieux aborder l'ensemble des risques et opportunités des entreprises sur à court, moyen et puis plus long terme, le plus parlant étant le risque climatique. Donc on va analyser les entreprises sous cet angle-là. Et ensuite, au sein du portefeuille, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'appuyer, donc on a une équipe d'analystes extra-financiers, on va s'appuyer sur ces analyses pour construire un portefeuille en pratiquant des exclusions, mais également en sélectionnant des entreprises qui sont les mieux disantes, qui adoptent les meilleures pratiques sur ces différents aspects. Tout cela, cette notation, ces exclusions, doit s'accompagner d'un dialogue avec les entreprises. Noter sa notion de sanction, ce qu'on recherche à faire, c'est faire progresser les émetteurs, les entreprises qui n'ont pas les meilleures pratiques. Et ça se fait au travers, au moment de l'analyse de l'entreprise, par l'analyste. L'analyste va dialoguer avec l'entreprise pour mieux la cerner, et puis deux, en disant sur votre secteur d'activité, on a une vue large du secteur d'activité, vos concurrents ont adopté telle pratique, vous, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour les mettre en place, les mettre en œuvre et tirer l'ensemble vers le haut. Donc ça, c'est le premier élément au moment de l'analyse. Ensuite, en continuité, on a ce qu'on appelle des rapports d'engagement. Donc on va choisir 1, 2, 3 thèmes par an dans lequel on va engager un dialogue avec les entreprises. Ça peut être, c'est des thèmes assez variés, ça peut être par exemple l'huile de palme, tout ce qui est lié à l'optimisation fiscale agressive par exemple, etc. etc. Donc on va sélectionner des entreprises sur ce thème-là et entamer un dialogue avec ces entreprises pour vraiment engager un dialogue avec
ces entreprises. Est-ce qu'elles vous écoutent, Fabrice de Souza ? C'est ma question, parce qu'à un moment, même si vous pouvez rentrer dans ces entreprises, vous avez quand même une toute petite partie du capital, ou un peu plus grosse, mais est-ce que, avec 0,5, 1%, 2% de la société, ça, on peut faire bouger les choses?
Alors, et le dernier point, effectivement, de tout ça, c'est en étant détenant l'action de l'entreprise, on est directement actionnaire de l'entreprise. Les fonds sont actionnaires de l'entreprise, et associé à chaque action est lié un droit de vote. Amundi, en tant que position, de par sa position de leader européen sur l'asset manager, a un poids assez conséquent, notamment dans les entreprises européennes, dans le capital des entreprises. Donc en amont de la saison des assemblées générales, on édite une politique de vote qui est d'ailleurs publique sur notre site internet, qui va fixer les grandes lignes de notre politique de vote. Et en fonction des résolutions présentées par les entreprises aux assemblées générales, on va également entamer un dialogue avec ces entreprises en disant, vous avez déposé cette résolution, elle n'est pas conforme à notre politique de vote de cette année, nous allons voter contre, en tout cas, dans l'État, on risque de voter contre, est-ce que vous pouvez l'amender? Ou alors le vote sanction étant le vote contre à l'Assemblée générale. Donc dans la plupart du temps, ça se passe plutôt bien et les entreprises soit amendent ou retirent la résolution. Et puis dans le cas contraire, on va voter contre au moment de l'Assemblée générale. Et donc tout ça se fait de manière transparente et avec un dialogue en
D'accord.
permanence.
Donc on pèse finalement à votre échelle sur la vie des entreprises. Marie Brière, c'est intéressant. Est-ce que justement il y a une demande aussi, vous qui êtes au contact des investisseurs, de la part de ceux au final qui contractent avec vous et qui vous disent, moi je veux bien investir dans vos fonds, mais il faut qu'il y ait une action concrète?
Ah oui, tout à fait. Cette demande-là, elle est très prégnante de la part des investisseurs institutionnels. Les grands fonds de pension, les grands fonds souverains de la planète souhaitent avoir une politique active de vote en Assemblée générale, comme le disait Fabrice. Eux-mêmes, parfois, ont des guidelines très précises sur la manière dont ils souhaitent que leurs actions soient votées lors des Assemblées générales. Et donc, je dirais que c'est ce consortium. Donc, effectivement, Amundi pèse lourd par les actifs sous gestion qu'il a. Mais c'est pas seulement Amundi, c'est un consortium, finalement, d'investisseurs institutionnels qui misent tous ensemble, qui parfois d'ailleurs s'unissent pour voter de manière commune lors des assemblées générales, peuvent peser très très lourd lors des assemblées générales et influencer durablement la politique des entreprises.
D'accord. Et au niveau justement de vos clients aussi, quand vous allez les voir, peut-être au patron, c'est quelque chose, vous sentez qu'il y a une appétence aussi, un enjeu aujourd'hui d'un plan d'épargne justement qui va être mis en place au niveau des entreprises?
Moi, je pense qu'il faut être réaliste. Aujourd'hui, quelle entreprise accepterait de renier aux critères ESG, parce qu'on parle d'acronyme, l'environnement? Qui est capable de dire l'environnement n'est pas un sujet pour nous, entreprise? Qui est capable de dire la lutte climatique n'est pas un sujet? Qui est capable de dire la gestion des ressources durables n'est pas un sujet?
Ressources humaines.
Et la protection de la biodiversité n'est pas un sujet. Ça, c'est le fameux E. Moi, je n'en connais pas une seule. C'est pas possible. Aujourd'hui, dans le social, le non-respect d'un certain nombre de critères, des droits de l'homme, ainsi de suite, c'est pas envisageable. Il n'y a pas une entreprise qui dit, moi, je vais mettre en place un dispositif d'épargne sale qui ne va pas respecter le S de l'acronyme ESG. Et sur la gouvernance, bien entendu, il est appelé...
Donc le management. Hein,
le management, l'engagement de l'entreprise, son comportement, la gestion des conflits d'intérêts et le côté éthique. Aujourd'hui, il n'est plus possible... en 2021, mais c'était déjà le cas avant, d'imaginer des dispositifs dont les entreprises dans lesquelles nous irons investir ne respecteraient pas ces critères. C'est inenvisageable. Et je vais plus loin. La loi PACTE a développé le PER, plan d'épargne retraite. On imagine très bien à l'avenir que l'épargne longue, l'épargne retraite, parce qu'il y a un engagement dans le temps. C'est important. Les investisseurs que nous sommes et que nous représentons, on fait de l'investissement à moyen long terme, bien entendu. Et donc, on est obligé de voir aussi l'évolution de l'entreprise dans le temps, la façon dont elle va se comporter. Le dialogue actionnarial est un point fondamental, puisque l'idée, c'est de voir comment progresse l'entreprise au regard des remarques qu'on peut lui faire et autour de ses critères ESG. Et typiquement, le PER, qui est un plan d'épargne retraite sur lequel on va fabriquer une retraite complémentaire de capitalisation, va pouvoir vraiment utiliser ces critères ESG, les mettre en avant. C'est d'autant plus important de construire sur une durée longue un patrimoine qui se doit de respecter ces critères ESG, et ça ne sera pas pour autant contre-performant. C'est ça qu'il faut dire aujourd'hui. L'ESG n'est pas source de contre-performance. Au contraire, elle est source d'amélioration de la performance sur ces critères-là, et on voit bien que pousser les vertus sur l'investissement socialement responsable aide énormément les entreprises à se développer, à être performance, à être rentable.
Ouais. Alors justement, on est déjà interpellé sur la question de la performance. Véronique nous dit, on parle de généralité, de choix des investisseurs, mais nous, individus, on ne voyons pas ce que font les autres. Parlons performance. Voilà. Où est-ce qu'on en est justement de cette performance? Qu'est-ce qu'on peut attendre? Je pense que derrière, peut-être, il y a la question de... Sur les marchés, on peut comprendre que ça fasse peur. Pourquoi ? On prend 2020. Tout allait bien jusqu'à ce qu'un méchant petit virus, non seulement nous laisse chez nous, mais terrasse aussi la bourse. On a perdu, Xavier Coelho, 40% en un mois. C'était presque du jamais vu, en tout cas depuis 2008. Mais là, la vitesse a fait que du jour au lendemain, on se dit bah, « Tiens, moi, j'ai fait confiance, j'ai mis mon épargne, Marie Brière, dans la bourse, enfin, dans des placements actifs, peut-être dans des entreprises responsables. » Ça s'écroule aussi.
Alors ça s'est moins écroulé, donc il y a eu une chute, bon. ça c'est clair, mais les entreprises socialement responsables ont été plus résilientes pendant la crise du Covid.
C'est prouvé.
Oui, ça c'est prouvé. Alors la question, c'est pour quelles raisons en fait donc une des raisons, c'est aussi que les investisseurs qui sont motivés par les raisons socialement responsables ont été aussi plus stables, c'est-à-dire qu'ils sont moins sortis de ces entreprises-là. Nous, on a examiné par exemple les flux entrant dans les ETF socialement responsables sur le marché américain, et on montre très clairement que là où il y a eu des sorties massives des fonds actions, enfin des ETF actions, il y a eu une beaucoup plus grande résilience dans les fonds socialement responsables. Donc les investisseurs sont plus stable. Et puis après, en termes aussi de caractéristiques des entreprises, en termes d'exposition sectorielle, les entreprises ESG étaient aussi, les mieux notées sur le plan ESG étaient aussi moins exposées aux risques environnementaux et sociaux, et font qu'elles ont été plus résilientes.
Plus résilientes, d'accord. Donc surperformance, en tout cas moindre sous-performance. On rappelle quand même qu'il y a eu rattrapage sur la fin de l'année et qu'on est même aujourd'hui avec un CAC 40, si on prend notre indice national, revenu sur les niveaux d'avant-crise de manière un peu incroyable, puisque la crise est loin d'être résolue, mais on a quand même confiance en l'avenir. Fabrice de Souza, un petit mot justement sur ce choix, parce que quand on crée les produits, c'est pas évident non plus de faire un bon arbitrage entre des produits sécurisés et qui sont historiquement les préférés des épargnants, avec la nécessité peut-être de prendre un peu plus de risques et de faire des produits plus, on va dire, offensifs.
Effectivement. Et le point crucial de tout ça, c'est en fait la question que l'investisseur doit se poser au démarrage. C'est un, quel est mon objectif, et deux, quel est mon horizon de placement. Effectivement, Marie le disait tout à l'heure, une très large partie des investissements aujourd'hui reste sur du monétaire. Et ça, c'est notamment, on le retrouve dans les plans... d'épargne entreprise à 5 ans, mais c'est également vrai dans le cadre des percos. Donc la première question, c'est quel est mon horizon de placement ? Est-ce que j'ai un horizon long ? Et dans ce cadre-là, je suis prêt à prendre du risque. Et dans ce cadre-là, dans ce contexte-là, les investisseurs qui choisissent par conviction, notamment des fonds d'investissement responsables, ont, le disait Marie, plus tendance. Ce sont des investisseurs à plus de moyen long terme et ne vont pas paniquer lorsqu'il y a une baisse des marchés financiers et restent plus fidèles à leur fonds, à leur placement.
Ouais, finalement, j'ai l'impression qu'on se réconcilie avec le temps long de l'épargne et se dire finalement... Bah, c'est le principe d'ailleurs de l'investissement boursier. Voilà, on n'est pas sur un coût à 6 mois, à 1 an. C'est pas du trading. On investit son épargne sur du temps très long. On va peut-être la débloquer s'il y a un événement de vie. On rappelle les conditions, Xavier, de sortie. Je crois qu'elles ont été assouplies en plus avec la crise sanitaire. C'est si on se marie, malheureusement, si on divorce, si on fait un premier achat. C'est bien ça.
Hein, oui, tout à fait. Vous avez des conditions de sortie qui sont prévues soit dans le plan d'épargne entreprise, soit dans le plan d'épargne retraite. Les conditions de sortie existent, mais pour venir sur le sens de notre intervention aujourd'hui, si on veut une épargne utile, encore faut-il qu'elle s'investisse au bon endroit. Et pour s'investir au bon endroit, il faut respecter un certain nombre de critères qui ont été débattus ici, mais il faut ici donner un temps long à l'entreprise pour se transformer vers des choses vertueuses, vers de la croissance verte, et ainsi de suite. On ne peut pas juger une performance économique à l'aune de 3 mois, de 6 mois et d'1 an. Il faut une perspective. Et c'est tout l'objet du fléchage de l'épargne vers l'investissement productif. Hein, on le répète, et ça sera probablement très utile de le répéter dans les 30 prochains avec la relance, parce que si on veut vraiment flécher l'épargne vers l'économie productive et favoriser la relance, on aura tous besoin, post-Covid, il faut accepter ce temps long. Et donc, une épargne probablement un peu moins disponible en permanence. C'est une épargne qui doit être fléchée sur des projets de vie, puisque ce qui est intéressant, c'est avec les conditions de déblocage qui existent, qui sont réglementaires, c'est aussi de projeter cette épargne. J'en ai besoin tout de suite, dans 6 mois, dans 6 ans, dans 10 ans, dans 15 ans. Voilà, il faut se projeter et de dire, cette épargne, j'en ai besoin pour faire quoi, hein. Et en fonction de la réponse à cette question, de son profil de risque et de sa capacité à prendre du risque, et donc d'aller chercher un peu plus de performance, on doit trouver les réponses à ses besoins en fonction des différents supports qui sont proposés. Et à noter que c'est un point qu'on constate avec Corinne, c'est que il y a 5-6 ans, on proposait maximum 5-6 fonds dans les dispositifs d'épargne. On n'en voulait pas plus. Et le besoin client n'exprimait un besoin relativement limitatif dans le choix des supports. Aujourd'hui, c'est tout l'inverse. On dit qu'il faut une gamme beaucoup plus large, permettant à chacun de trouver la réponse à son besoin. Et probablement que ça s'accélère avec la mise en place du PER, plan d'épargne retraite, puisque là, effectivement, on est sur des sujets de placement moyen de 20 à 30 ans. Hein, on parle donc d'investissement long. Et là, on peut effectivement étayer les gammes. Et c'est ce sur quoi on travaille aujourd'hui, inscrivant davantage de gammes avec des notions de thématiques assez prégnantes.
Mais ça a changé, parce que j'ai l'impression qu'effectivement, il n'y avait peut-être pas assez. Mais on avait aussi fait des études. Je crois que s'il y avait trop de choix, ça tuait le choix. C'est-à-dire que les gens se disaient « Ah non, attends, il y a 20 supports, 30, 50 supports. Moi, j'y connais rien. » Quand il y en avait 3, c'était... Allez, basiquement défensif, équilibré, dynamique. Mais là, je suis perdu. Là, on revient aussi à un espèce de panachage, à donner plus le choix au client final. Marie Brière.
Oui, il y a des travaux académiques qui montrent qu'effectivement...
J'aime bien Marie parce qu'elle a toujours des travaux académiques quand elle fait ses réponses.
Oui, on peut toujours démontrer. Non, mais qui montrent que... Un trop grand choix, tout dépend du choix qui est proposé, mais si le choix est multiple et qu'il ne correspond pas à des besoins des gens, effectivement, ça peut tuer le choix. C'est comme dans les supermarchés, quand vous avez trop de yaourts ou trop de confitures, on ne sait plus quoi choisir et les gens peuvent ne rien choisir du tout. Mais à la fois, on voit aussi un mouvement quand même aujourd'hui d'individualisation et de customisation des produits, et je pense que c'est ça que Xavier veut souligner. On veut des produits qui sont plus proches de ses besoins. Je crois qu'aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est un produit d'épargne qui correspond exactement aux besoins personnels que l'on rencontre. Et on est tous différents. Et donc, on a des besoins, des préférences différentes. Et je crois que, bon, ça, c'est un peu une grande tendance de nos sociétés. On va vers plus de customisation, plus de personnalisation dans les offres. Et c'est ça qui se traduit, je pense, dans les placements actuels.
Bonne nouvelle, on peut customiser son épargne. Oui, Corinne Labourex.
Oui, juste pour rebondir sur ce que dit Marie, je pense que l'idée de fonds qui sont... porteurs de critères ESG et d'investissement responsable, qui ont donc du sens, ça crée aussi un signal. Et donc justement, dans les offres, dans les gammes, ce sont des produits qui ont une visibilité particulière. Donc ça, je pense que c'est important aussi. Je voudrais juste revenir sur la notion de risque et de long terme. Donc vous disiez très justement que, effectivement, on était sur un temps long. Et je voudrais juste souligner que, justement, une gestion ISR, elle concourt, en fait, à mieux gérer le risque sur le temps long. Pourquoi ? Elle ne s'oppose pas, en fait, à la gestion classique. Elle est très complémentaire. Et le fait d'introduire une analyse ESG dans la gestion des fonds, c'est aller beaucoup plus loin dans la recherche, l'analyse et la bonne compréhension des risques qui sont attachés à une entreprise. Et justement, en fait, cette dimension-là, elle est particulièrement utile dans le temps long de l'investissement.
Oui, parce que les risques ESG sont des risques longs. Prenez le risque climatique, ce sont des risques qui vont se matérialiser à 50, 100 ans. Donc je pense que ces problématiques-là sont particulièrement importantes dans le temps long.
Et donc il y a un excellent mariage, si je puis rebondir sur un des cas que vous citiez, entre temps long, retraite, qui est un temps long, investissement responsable, critères ESG. Tout ça, en fait, ça converge. Et ça prend du sens ensemble.
Oui, bien sûr. Xavier, le temps long, moi j'ai l'impression aussi, il y a peut-être une difficulté, c'est que voilà, je suis épargnant, je reçois ma prime ou c'est fait, on me demande finalement un choix. Est-ce que les épargnants sont suffisamment armés aujourd'hui pour faire ces choix, que ce soit sur 3 supports ou sur 30 ou 50? Est-ce que je peux trouver pile poil ce qu'il me faut? Est-ce que j'ai finalement j'ai pas besoin d'un accompagnement, d'un conseil? Et si vous le faites, comment ça se matérialise?
Tout à fait. Je pense que le mauvais choix, ce serait de placer au regard de la performance passée. On sait tous que les événements, la bourse, les marchés financiers évoluent dans le temps. Et donc, on doit placer au regard de sa durée de placement et de sa capacité à prendre du risque. Donc, les robots, aujourd'hui, on a mis en place un robot advisor pour permettre d'industrialiser l'approche de conseil. Puisque quand vous avez 4 millions d'épargnants, il est difficile de mettre un conseiller derrière chaque épargnant. Donc, l'idée, c'est de trouver des solutions industrielles permettant d'accompagner le salarié au regard d'un profil d'investisseur. Je parle au miroir, le miroir me pose des questions, je lui réponds et à la fin, il me dit, voilà, au regard de votre horizon de placement, de votre appétence à prendre du risque, de votre projet de vie, voilà l'allocation que je vous propose. Donc forcément, ça facilite le passage à l'acte, l'allocation en conséquence. D'autres souhaitent faire autrement. Mais l'idée, c'est d'apporter un éclairage chaque année, répéter aux salariés chaque année dans les dispositifs d'épargne salariale les supports d'investissement, comment ils se sont comportés dans le passé. C'est important d'avoir la connaissance de la performance future. Mais encore une fois, le choix ne doit pas se faire sur cette base-là. Et c'est tout l'enjeu de la pédagogie. On a parlé, Fabrice, tout à l'heure, de la pédagogie. Alors, il n'y aura pas le grand soir de l'éducation financière auquel on peut tous aspirer. Ce n'est pas vrai. C'est à nous, acteurs, d'accompagner les entreprises et les salariés de ces entreprises à la bonne compréhension de ces dispositifs et de les accompagner. Donc, effectivement, on va de plus en plus dans la constitution d'une épargne patrimoniale, puisque je rappelle, sur 147 milliards aujourd'hui d'épargne, pour la plupart, ça représente leur seule épargne, l'épargne du foyer. Donc ça, c'est un point important. Peut-être Marie pourra préciser la façon dont ça se présente dans le panorama global de l'épargne. Et donc, on se doit d'accompagner, bien entendu. Alors, on est toujours à savoir si on doit faire du conseil, pas du conseil. Est-ce que l'entreprise veut qu'on communique autrement auprès du salarié? Donc, bon, c'est des choses qui méritent de l'ajustement. Mais clairement, moi, ma vision des choses, c'est qu'on va de plus en plus dans un acte de conseil pour accompagner les salariés dans ses choix de placement au regard de son appétence à prendre du risque et au regard de ses projets de vie. Parce que les projets de vie, ils vont varier d'un individu à l'autre. Et la machine à café ne suffit plus à orienter l'épargne de ses collègues.
Ouais, non. Puis on n'a pas forcément les mêmes choix que son voisin. Hein. À un moment, on est tous différents. Juste une question, à Fabrice de Souza. On peut quand même dire aux gens là, qui nous écoutent, pour ceux qui ont besoin d'un petit rappel, qu'aujourd'hui, le fait de laisser sur des supports monétaires, ça n'a pas de sens. En tout cas, économiquement, on est pratiquement sûr de ne pas perdre sa mise, évidemment, mais de voir son épargne grignoter.
Effectivement, dans le contexte actuel, les taux d'intérêt sont pilotés par la Banque centrale européenne pour la zone euro. Et la Banque centrale européenne cherche à tout prix à relancer la machine économique de la zone euro. Et pour ce faire, elle a mis en place différents outils. Et tout cela se retraduit au niveau des taux d'intérêt. Donc les placements monétaires, donc ce sont des taux très court terme, aujourd'hui sont en territoire négatif. Alors quand on a fait nos études, on nous expliquait que les taux d'intérêt ne pouvaient pas être négatifs, mais on s'aperçoit
que c'était
il y a longtemps. Aujourd'hui, le monde a changé. Et donc les placements monétaires qui historiquement étaient utilisés comme des placements dits sécurisés, d'ailleurs les noms
bon père de famille,
ont changé, ont évolué. Aujourd'hui, ont des rendements négatifs. Et à cela, vous rajoutez un peu d'inflation, même si elle est très faible aujourd'hui en zone euro, mais il y en a quand même un petit peu. Donc un placement monétaire plus de l'inflation, sur un horizon de 5 ans sur le plan d'épargne, voire plus long terme dans le cadre des plans d'épargne retraite, ça, au final, vous grévez du pouvoir d'achat à l'horizon final du placement.
Bon, Marie Briard, est-ce qu'il y a des études académiques qui expliquent ce phénomène, ou alors soit les gens ne le savent pas ou s'en rendent pas bien compte, soit comment ça se fait qu'on a l'impression qu'on n'a pas d'alternative finalement et qu'il faut mettre une partie de son épargne en action?
Oui, je pense que la période qu'on vit est historique. Hein, des niveaux de taux aussi bas, on n'en a pas connu depuis quand même très 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 longtemps. Et donc, je pense que pour tous les investisseurs, qu'ils soient institutionnels ou particuliers, c'est une phase extrêmement déconcertante sur la manière d'orienter son épargne. Et donc, effectivement, la seule alternative, ça semble être de prendre du risque.
Le placement sans risque ne rapporte rien. Voilà.
Le placement sans risque ne rapporte rien. Ouais, oui. Et donc, c'est un choix. Je comprends qu'il est très difficile pour beaucoup, que tout le monde n'a pas la possibilité de prendre ce risque. Mais c'est vraiment lié à cet environnement très particulier dans lequel on se trouve, quoi.
D'accord. En tout cas, pour résumer, on sait que quitte à prendre du risque, on peut aussi réconcilier son effort d'épargne avec
du sens.
Oui. Et on a vu, en plus, les gens sont plutôt appétents à condition qu'ils le sachent. Il nous reste un petit quart d'heure, messieurs, dames. On va commencer à prendre les questions. Elles sont nombreuses. Hein. Je rappelle qu'il y a plus de 120 connectés en direct. Ça fait une belle salle. C'est dommage. Hein. On ne peut pas les voir, malheureusement, mais on les salue. Je vous remonte une question sur quelle place pour les actifs dits réels dans l'épargne salariale, infrastructure, private equity, etc. Donc private equity, hein, c'est les capitaux privés qui vont investir dans les startups, par exemple. Est-ce qu'il y a une place dans vos produits pour des actifs réels?
Alors, effectivement, la question revient. Le produit en tant que tel, private equity, etc., en direct auprès de l'épargnant, d'un point de vue réglementaire, ce n'est pas faisable dans l'épargne salariale. Par contre, dans nos offres de fonds, notamment ceux qui sont avec des encours assez stables et avec des horizons plutôt moyen-long terme d'investissement, on intègre, on va essayer d'utiliser ces primes d'illiquidité qui génèrent une performance un peu plus élevé que les actifs traditionnels. Cette prime liquidité, on va l'utiliser pour investir une petite partie de nos placements, de nos fonds sur ce type d'actifs. Et puis on a constitué également un fonds qui va investir sur des actifs réels comme l'immobilier, mais également sur des actifs valeur refuge comme l'or, pour dans un horizon plutôt moyen-long terme, 8 ans minimum, essayer de traverser l'ensemble des cycles économiques, de générer une performance assez comparable aux performances des marchés actions, mais en ayant une volatilité très inférieure au marché d'actions, justement du fait de ces investissements sur des actifs immobiliers, des actifs valeurs refuge comme l'or.
On parlait.
Je voudrais juste, Fabrice, compléter ce qu'a dit l'autre Fabrice. N'oublions pas que les plans d'épargne entreprise sont des énormes réceptacles de support d'action de l'entreprise à travers ce qu'on appelle l'actionnaire salarié. L'actionnaire salarié peut être coté, non coté. Le non coté, c'est ce qu'on pourrait appeler du private equity, du capital développement, ainsi de suite. Donc, il y a une appétence assez forte dans les dispositifs d'épargne salariale à investir dans les actions. Des actions de son entreprise. Et on voit
bien.
Il y
en a souvent une décote, 15-20%.
Il y a une décote, il peut y avoir de l'abondement, et bien entendu, ensuite, il y a le rendement du dividende et le fait d'être actionnaire de son entreprise qui crée un lien de filiation très puissant avec son employeur. Donc, moi, je suis assez confiant au développement des actifs réels dans les plans d'épargne retraite, puisqu'on voit bien l'utilité d'aller chercher un surplus de rendement sur une duration beaucoup plus longue.
Justement, comment on remplit ces objectifs d'intensité ou d'impact? Est-ce qu'il y a une action concrète aussi sur le terrain, soutien, je crois qu'on en a parlé tout à l'heure, soutien aux régions, à l'emploi sur certains territoires. Corinne Labourex.
Donc, effectivement, dans les fonds que nous gérons, on peut trouver plusieurs thématiques qui sont couvertes. On peut dire déjà d'ailleurs que dans les fonds qui sont solidaires, la partie de gestion de projet emmène de façon très directe un suivi et un accompagnement, un soutien en fait des entreprises solidaires qui portent ces projets. Donc nos équipes sont très présentes à leur côté. Ensuite, lorsqu'on est dans des logiques plutôt de capital développement ou de capital risque telles qu'on vient de les évoquer, bien à travers les participations qu'on a, c'est également des participations des projets qui sont suivies par les équipes de spécialistes d'Amundi et les gérants qui travaillent avec eux. Et puis plus globalement, il y a l'idée d'aller porter des thématiques à travers, par exemple, des labels, je pense au label Relance, ou à travers, sans même parler de labels, effectivement, de thématiques plus fortes. Vous savez que les fonds d'épargne salariale, lorsqu'ils s'adressent à des dispositifs de retraite, ont, par exemple, la possibilité de prendre pas mal d'actions de PME et de petites entreprises d'une façon générale. Là aussi, il s'agit de proposer directement à travers le produit la possibilité d'aller soutenir, en fait, dans les territoires, ces typologies d'entreprises qui sont souvent sur des dynamiques fortes, mais qui ont besoin d'être soutenues par les marchés financiers à travers la participation, cette fois-ci cotée dans leur capital. Donc oui, je dirais que tous les étages en fait, de l'investissement peuvent, d'une façon ou d'une autre, concourir en fait, à cette finalité.
Voilà, en tout cas, l'argent sera bien investi, évidemment, et notamment avec ces labels. Mais justement, les labels, parce que c'était dans mon introduction aussi, c'est vrai que quand on entend ESG, après on a des labels Greenfin, Finansol, maintenant on a le label Relance. Fabrice de Souza, on peut comprendre aussi qu'on soit un peu largué, pardonnez-moi l'expression.
Effectivement, quand on regarde ça en première lecture, ça peut paraître un peu complexe. Il faut avoir en tête que derrière chaque label, il y a une finalité. Hein. Vous parliez du label Greenfin, qui est plutôt à destination des fonds verts qui financent la transition écologique, énergétique. Label ISR d'État qui est plus généraliste mais qui impose une certaine sélectivité dans le choix des valeurs. Puis au niveau de l'épargne salariale, Xavier en a parlé tout à l'heure en tout début, il y a le label CIES, Comité intersyndical de l'épargne salariale, qui labellise des fonds, des offres, des gammes de fonds en épargne salariale, qui est aujourd'hui notre principal label en épargne salariale. D'ailleurs, le cahier des charges du CIES en train d'être renouvelé. Voilà, aujourd'hui, en épargne salariale, c'est vraiment celui qui fait un peu le...
Qui est notre référence.
Référence, merci.
D'accord. Voilà, une question, c'est plutôt une remarque de Véronique, voilà, qui illustre bien. Nous, individus, même si nous avons été obligés de vous remettre notre épargne salariale, nous ne connaissons pas les marchés et nous n'avons pas le temps entre travail, maison, enfant, trajet. C'est intéressant comme remarque. Déjà, le wording, la façon de s'exprimer, on a été obligé de vous remettre notre épargne. On a l'impression que, voilà, on aurait peut-être préféré la conserver. Et puis, finalement, on est obligé de l'investir.
Oui, il n'y a aucune obligation. Hein, Donc, on peut toujours récupérer son argent, la rémunération variable, et la mettre sur son compte bancaire. Donc, il y a un avantage fiscal à le faire. Donc, je pense que c'est la raison pour laquelle beaucoup d'individus sont motivés à mettre leur argent dans un dispositif d'épargne salariale. Mais effectivement, ce qui est très intéressant dans la remarque de Véronique, c'est l'idée de manque de temps. Beaucoup d'entre nous manquons de temps. Et d'ailleurs, nous-mêmes, professionnels de la finance, on dit que les cordonniers sont parfois les plus mal chaussés. On manque de temps.
Qui est en monétaire autour de cette table ou sur justement l'action Amundi, peut-être.
De son propre portefeuille. Donc ça, c'est d'où l'importance de la confiance, en fait. Hein, et j'y reviens parce qu'effectivement, il faut faire confiance à un provider de fonds dans la manière dont il pourra effectivement donc gérer correctement les fonds dans le meilleur intérêt des clients, mais aussi fournir tout ce dispositif d'accompagnement dont parle Xavier, les robots conseillers, par exemple, participent de ça. Moi, ce que je constate, c'est que justement, ces outils qui peuvent être mis à disposition des particuliers qui, justement, manquent de temps, manquent d'éducation financière, comme on le disait tout à l'heure, ne sont pas des spécialistes de la finance. Et puis, il faut quand même reconnaître que ce sont des décisions extrêmement compliquées, les décisions financières. Hein. Donc, on comprend bien qu'on veuille déléguer ces décisions-là à des professionnels. Mais tous ces outils, comme les robots advisors, les robots conseillers, etc., permettent de prendre des meilleures décisions. Et c'est des choses qu'on a analysées récemment. Ils permettent notamment à des gens qui ont des plus petit patrimoine de prendre de meilleures décisions. Donc, ils favorisent l'inclusion financière. Et ça, ça a été démontré de manière assez, assez appuyée.
Xavier Collot.
Et n'oublions jamais que ce sont des dispositifs dits de partage du profit. Et donc, l'entreprise est bienveillante sur le prestataire qu'elle sélectionne et sur la façon dont le prestataire va conduire ses campagnes d'interrogation des salariés et la façon dont le prestataire que nous sommes allons investir. Donc, il y a un point de vigilance, bien entendu, de la part d'entreprise qui est bienveillante dans la sélection et dans le suivi.
Mmh. Juste une petite question en annexe. Une fois qu'on rentre dans votre dispositif, le robot, il est disponible à tous les bénéficiaires ?
Il est ouvert à tous les bénéficiaires. Beaucoup de bénéficiaires font des simulations, ne passent pas à l'acte, probablement qu'ils le font individuellement. Et puis d'autres bénéficiaires laissent le robot faire le travail. Et on a vu des différences de comportement, et Marie le sait, au moment de la crise. Les salariés qui étaient investis dans le robot se sont laissés guider. Beaucoup d'autres ont fait des arbitrages, peut-être à tort, peut-être à raison, puisque les marchés ont largement retrouvé leur niveau d'antan. Voilà, donc le conseil financier, c'est pas on joue un coup, parce que quand on parle de placement, on est sur une gestion de bons pères de famille, c'est-à-dire que c'est des dispositifs de partage de profit, des avantages extra-salariaux qu'on reçoit de son employeur. Et donc l'idée, c'est soit on le perçoit, et il n'y a aucune obligation de placer, soit on le place. Et là, l'idée, encore une fois, c'est se poser les bonnes questions. Et moi, j'invite tous nos auditeurs et tous les épargnants à se poser les questions. J'en ai besoin pour faire quoi ? Quel horizon de placement ? Est-ce que j'ai... Si je prévois, je dirais, de dépenser dans 6-8 mois, bien entendu, il ne faut pas prendre de risque. Si mon horizon de placement est beaucoup plus long, bien entendu, il faut prendre un peu de risque. Et si ensuite j'ai une appétence forte à prendre du risque, parce que par ailleurs j'ai déjà de l'actionnaire salarié, bah, je peux aller jouer davantage ce qu'on appelle les actions.
D'accord. Une question, excusez-moi, on va prendre les questions parce qu'il nous reste peu de temps, de Mathieu qui nous demande, alors selon vous, est-il plus intéressant d'arbitrer son épargne salariale en une fois, par exemple sortir du monétaire pour faire autre chose, ou d'utiliser la méthode DCA, en fait méthode fractionnée d'investissement ?
On pourrait peut-être dire qu'elle est intéressante dans les deux sens, que ce soit pour acheter, pour investir, pour sortir. Pourquoi ? C'est parce qu'en fait, on lisse en fait les points de sortie, les points d'entrée, et d'un point de vue pur de gestion du risque, ça peut être davantage intéressant. Et puis ensuite, il y a une autre dimension qu'il faut prendre en compte, c'est la dimension fiscale, notamment lorsqu'on est sur des plans en fait d'épargne retraite. Et effectivement, un épargnant peut avoir intérêt à sortir de façon fractionnée. C'est d'ailleurs une fonctionnalité qu'on va proposer très, très vite sur nos propres sites d'ici à quelques semaines. Parce que justement, ça permet d'étager les sorties et le poids effectivement de la fiscalité. Donc ça peut être très intéressant. Donc il faut toujours mieux étager cette décision, que ce soit à l'entrée ou à la sortie.
Une autre question sur le robot de la part d'Hélène. L'utilisation du robot est-il gratuit ?
Alors, ça dépend des conditions négociées avec l'entreprise.
D'accord.
Donc, c'est de base, c'est payant. Encore une fois, l'entreprise peut décider de le prendre à sa charge. L'entreprise peut décider de l'offrir à ses salariés. Donc, c'est au cas le cas.
Je pensais également, Xavier, par rapport aux robots, aux humains, parce qu'il ne faut pas les oublier, aussi des conseillers en gestion de patrimoine, etc. Est-ce qu'on a intérêt à aller, si on en a un, conseiller en gestion de patrimoine, pour lui dire, ben voilà, ça fait aussi partie de mon épargne, et voir en fait la big picture, j'allais dire l'ensemble du patrimoine ?
C'est toujours utile de faire un bilan global patrimonial et de voir comment l'épargne née dans l'entreprise, qui est l'épargne salariale et l'épargne retraite, s'inscrit dans ce bilan patrimonial. C'est toujours très utile. Le faire trop tôt, pas beaucoup d'avantages. Il faut probablement le faire une fois la quarantaine ou la cinquantaine passée.
De même qu'il est intéressant de faire un bilan retraite.
Oui.
C'est lié. Et pareil, il y a des moments pour le faire, mais ça permet de mettre en perspective son patrimoine et l'utilisation qu'on peut en avoir. Donc c'est intéressant. Juste peut-être pour compléter l'accompagnement, rappeler que le robot advisor est vraiment quelque chose d'intéressant et qui permet de modifier ses comportements et d'être plus à l'aise avec son épargne. On propose aussi des formations. Donc avec une équipe qui est dédiée, qui comprend des professionnels de toute notre ligne de métier et qui vient très utilement en complément de ce qu'on vient d'évoquer. Et là aussi, bon, c'est au choix bien sûr de l'entreprise. Mais ce sont des moments qui sont forts et qui permettent aux salariés de beaucoup mieux comprendre la façon dont la gestion financière peut être pratiqué, ça démystifie en fait toutes les questions financières, ça permet également de réfléchir à sa retraite ou à ses projets de façon plus générale. Donc c'est quelque chose qui est très utile et qui permet d'approfondir en fait sa situation, mieux l'analyser et mieux répondre aux questions qu'on se pose.
Une dernière remarque peut-être, Marie, justement sur cette épargne. Donc on a bien compris avec les études académiques, les différents sondages, une vraie appétence des Français, des épargnants, du moment qu'ils connaissent le produit, pour investir et prendre même un peu plus de risques, c'est bien ça. C'est en train de s'étendre et on est sur de l'économie réelle. On a bien compris que derrière ces investissements, Xavier, ce sont des milliards qui s'investissent et qui sont actifs, c'est-à-dire que derrière, il y a des décisions qui sont prises, il y a des recommandations, et puis que bah voilà, vous n'êtes pas démunis si vous êtes épargnant, si vous avez déjà de l'épargne salariale. Il y a non seulement le robot, dans certains cas, pour vous aider, mais également eh bien aussi des équipes. Je pense qu'il faut aussi aller voir peut-être son directeur des ressources humaines, aller en discuter, et pas seulement la machine à café. Marie, c'est un peu ce qu'on peut dire.
Tout à fait. Non, je pense que c'est une excellente synthèse de l'ensemble de nos débats. Non, je voudrais peut-être juste rajouter un point, que les jeunes, on n'en a pas beaucoup parlé, mais sont extrêmement sensibles aux problématiques socialement responsables, sont actuellement très actifs sur le marché actions.
C'est quoi les jeunes? Là, je me sens très vieux tout d'un coup.
Oui. Vous n'avez pas investi
c'est quoi,
pour la crise du Covid.
25, 35,
oui, 25-35 ans. Ouais. Donc il y a des comportements qui changent aujourd'hui. C'est un peu tôt pour en parler, mais on a quand même vu avec la crise du Covid des changements de comportement, pas seulement en France, partout dans le monde, aux États-Unis avec les plateformes de trading, etc. C'est un peu tôt pour savoir ce qui ressortira de tout ça, mais on voit les choses changer. Donc tout ça, ça donne envie d'être optimiste.
Bon, bah oui, on va garder cet optimisme, évidemment. C'est vrai que voilà, les choses se changent. Nous, en tout cas, on a été ravis de passer cette heure avec vous. Merci pour l'ensemble de vos questions. Je remercie évidemment les panélistes. Donc, Marie Brière, responsable de la recherche investisseur. Fabrice de Souza, responsable gestion ISR et solidaire. On en sait un petit peu plus sur la fabrication des produits. Merci à Corinne Labourex, la responsable marketing. Et à Xavier Collot, donc le patron de la division Amundi Épargne Salariale et Retraite. Très bonne journée à tous et à très bientôt pour un prochain webinaire.
Investir durablement grâce à l'épargne en entreprise, un webinaire proposé par Amundi dans le cadre de la semaine de l'épargne salariale, à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Radio Patrimoine et sur toutes les plateformes de streaming.